Chapitre 23. Puis, en second lieu, ils le conduisent à Pilate, afin d'obtenir du gouverneur romain l'autorisation d'exécuter cette sentence, savoir le condamner à mort. Ici, les accusateurs changent complètement leurs arguments et accusent Jésus d'être un rebelle et un rival de César. Jésus confesse qu'il est le roi des Juifs. Pourtant, Pilate le déclare innocent. Cette déclaration pourrait sembler surprenante, mais Marc nous permet de jeter un coup d'œil derrière la scène, lorsqu'il nous dit que Pilate savait que la haine violente des chefs religieux était inspirée par l'envie. Aussi commence-t-il par refuser d'être l'instrument de leur rancune, et il profite des relations du Seigneur avec la Galilée pour l'envoyer à Hérode. L'accusation « il soulève le peuple » était bien vraie, mais il voulait les élever vers Dieu, non pas les soulever contre César. Il y a aussi, en troisième lieu, la brève comparution du Seigneur devant Hérode, qui était impatient de le voir, espérant être témoin de quelque chose de sensationnel. De nouveau, les principaux sacrificateurs et les scribes l'accusent avec véhémence, mais ici, en présence de ce méchant homme, qu'il avait précédemment traité de renard, Jésus ne répond rien. Son silence plein de dignité incite seulement Hérode et ses soldats à abandonner tout semblant d'administrer la justice et à s'abaisser à la moquerie et à la dérision. Dans son humiliation, son jugement a été ôté. En conséquence, Hérode le renvoie à Pilate, et ici commence la quatrième et dernière partie de son procès. Mais avant de nous parler des tentatives que Pilate fera encore pour calmer les accusateurs et pour relâcher Jésus, Luc nous rapporte comment tous deux, Pilate et Hérode, ont enterré leur inimitié ce jour-là pour le condamner. La même tragédie s'est souvent répétée depuis lors. Des hommes totalement différents, par leur caractère et leur point de vue, ont trouvé un sujet d'entente dans leur rejet de Christ. Hérode s'abandonnait à ses plaisirs et était complètement indifférent. Pilate, bien qu'ayant un certain sens de ce qui est juste, était opportuniste et donc prêt à faire du tort si cela lui apportait de la popularité. Mais ici, ces deux personnages tombent d'accord. Le récit des dernières scènes du procès est donné brièvement au verset 13 à 26. Il n'est pas rapporté une seule des paroles prononcées par notre Seigneur. Tout est présenté comme une affaire se passant entre Pilate et le peuple poussé par les principaux sacrificateurs. Pourtant, certains points ressortent très clairement. En premier lieu, il y a le témoignage réitéré que Jésus était innocent. Pilate l'avait déclaré lors du premier interrogatoire, verset 4. Et maintenant, il le répète deux fois, versets 14 et 22. Enfin, le déclare une quatrième fois comme étant le verdict d'Hérode. Verset 15. Dieu prit soin qu'il y ait un témoignage abondant et officiel de cela. Puis, la fureur aveugle et irraisonnée de ses accusateurs est largement mise en évidence. Ils se contentent de réclamer sa mort à grands cris. De nouveau, le choix qu'ils font, plutôt que de laisser relâcher Jésus, ressort clair comme du cristal. Deux fois dans ces versets, le nom de Barabbas est associé à des crimes de sédition et de meurtre. C'est dire qu'il était la personnification vivante des deux formes sous lesquelles le mal est présenté d'une façon si fréquente dans les Écritures, corruption et violence. Ou, pour l'exprimer d'une autre manière, nous voyons la puissance de Satan qui agit et comme un serpent et comme un lion rugissant. En dernier lieu, nous voyons que la condamnation de Jésus est le résultat de la faiblesse du juge, qui livra Jésus à leur volonté. Il représentait le pouvoir absolu de Rome, mais il l'abdique en faveur de la volonté du peuple. Les scènes de la crucifixion occupent les versets 27 à 49. Nous sommes frappés par le fait que, tout au long de ces scènes, rien ne se passe d'une façon ordinaire. Tout est inhabituel, surnaturel ou touchant au surnaturel. Il est tout à fait habituel que les pleureuses professionnelles paraissent en de telles occasions, mais tout à fait inhabituel qu'il leur soit dit de pleurer sur elles-mêmes, ou qu'il leur soit annoncé un jugement à venir. Jésus lui-même était l'arbre vert, selon le psaume 1, et peut-être fait-il allusion à la parabole d'Ézéchiel 21, versets 1 à 5. Dans ces versets, Dieu annonce une flamme sur tout bois vert et tout bois sec. Le jugement est tombé sur le bois vert, lorsque Christ a souffert pour nous. Lorsque le feu se déclarera dans le bois sec des Juifs apostats, il ne sera pas éteint. Puis la prière de Jésus au moment où ils le crucifièrent était tout à fait inattendue et inhabituelle. Il demande au Père, en réalité, que le péché du peuple soit compté non comme meurtre, pour lequel il n'y avait pas de pardon, mais comme homicide commis par mégarde, pour que, malgré tout, une ville de refuge soit accessible même pour ses meurtriers. On vit une réponse à cette prière quelques 50 jours plus tard, lorsque Pierre prêcha à Jérusalem le salut par Christ ressuscité, et que 3000 âmes s'enfuirent vers le refuge. Cette prière était inhabituelle, parce qu'elle était le fruit de compassion divine, telle qu'on n'en avait jamais vu de semblable auparavant. La conduite des différentes personnes impliquées dans la crucifixion du Seigneur a été inhabituelle. Il n'est pas courant que les gens couvrent de sarcasmes et d'insultes même les pires criminels subissant la peine capitale. Ici, toutes les classes de la société l'ont fait. Même les chefs, les soldats et l'un des malfaiteurs qui subissait sa peine à côté du Seigneur. La puissance du diable et des ténèbres s'était emparée de tous. L'inscription faite par Pilate était inattendue. Ayant condamné le Seigneur comme faux prétendant à la royauté parmi les Juifs, il écrivit un titre qui le proclamait roi des Juifs, et comme le montre un autre évangile, il refuse de le changer. Dieu agissait là selon sa souveraineté. La conversion soudaine du second brigand fut totalement surnaturelle. Il se condamne lui-même et justifie Jésus. L'ayant justifié, il le reconnaît comme Seigneur et proclame, de fait, sinon explicitement, sa conviction que Dieu le ressusciterait d'entre les morts afin de lui donner une place dans son royaume. Il remplit les deux conditions de Romains 10, verset 9. Si tu confesses de ta bouche Jésus comme Seigneur et que tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Seulement, il croyait que Dieu le ressusciterait d'entre les morts au lieu de croire, comme nous, que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. La foi du brigand mourant était un joyau de première qualité auprès duquel notre foi d'aujourd'hui perd son éclat. Il est bien plus remarquable de croire qu'une chose s'accomplira sûrement quand elle n'a pas encore eu lieu que de croire qu'une chose s'est accomplie quand elle a déjà eu lieu. Et de plus, il était tout à fait inhabituel qu'un malfaiteur souhaite que le roi se souvienne de lui lorsque son royaume serait établi. D'habitude, les malfaiteurs s'esquivent furtivement dans l'ombre, souhaitant se faire oublier par les autorités. Son désir que Jésus se souvienne de lui montre que sa foi, en la grâce du Seigneur souffrant, égalait sa foi en sa gloire à venir. La réponse de Jésus à la prière du brigand est merveilleuse et inattendue, en effet. Non seulement dans le royaume à venir, mais en ce jour même, il allait faire l'expérience de la grâce qui agirait au-delà de la mort, amenant son esprit racheté dans la compagnie de Jésus dans le paradis. Or, le paradis et le troisième ciel sont identifiés en 2 Corinthiens 12, versets 2 à 4. Ces paroles du Seigneur sont la première révélation explicite du fait que, aussitôt que survient la mort, les esprits des saints sont introduits dans un état conscient de félicité avec Christ. Si tout était inhabituel sur le plan humain, lorsque Jésus mourut, il y eut aussi des interventions surnaturelles de la part de Dieu. Les versets 44 et 45 nous en parlent. Aux 3 heures les plus lumineuses de la journée, le pays a été plongé dans les ténèbres, le soleil ayant été obscurci. Il y avait quelque chose de très approprié à la situation, car le vrai soleil de justice portait le poids de notre péché à ce moment-là. En outre, le voile du temple fut déchiré par une main divine, montrant par là que l'époque du régime visible du temple était maintenant terminée et que le chemin pour entrer dans le lieu très saint allait être manifesté, voir Hébreux 9, verset 8. Notre vrai soleil fut voilé pour un temps, subissant notre jugement, afin qu'il n'y ait pas de voile entre nous et Dieu. Luc ne relate pas le cri du Sauveur quant à l'abandon de Dieu, poussé à peu près au moment où les ténèbres disparaissaient. Ni le cri de triomphe s'est accompli, quoiqu'il rapporte bien qu'il cria à haute voix, et que, ensuite, ses dernières paroles furent « Père, entre tes mains, je remets mon esprit ». Dans ses dernières paroles sur la croix, nous voyons celui qui, tout au long de son chemin avait été caractérisé par sa soumission à la volonté de Dieu, terminer ce chemin en homme parfait et dépendant. Ayant dit cela, il expira. Cependant, nous voyons qu'il est plus qu'homme, car à un moment donné, il crie à haute voix, sa vigueur intacte, et l'instant d'après, il est mort. À tous les points de vue, sa mort fut une mort surnaturelle. Le centurion, qui, en raison de ses fonctions officielles, fut témoin de cette scène, en rend témoignage. Même les foules qu'une curiosité morbide avait assemblées se sentent mal à l'aise sous l'effet de la crainte et de sombres pressentiments, et ceux qui étaient ses amis s'éloignent. Le centurion devint un quatrième témoin de la perfection de Jésus, après Pilate, Hérode et le brigand mourant. Les écrits prophétiques avaient dit « Tu as éloigné de moi amis et compagnons » Psaume 88, verset 18. Mais ils avaient également dit « Il a été avec le riche dans sa mort » Ésaïe 53, verset 9. Si le verset 49 nous donne l'accomplissement de l'une de ces prophéties, les versets 50 à 53 nous donnent l'accomplissement de l'autre. Dans toutes les situations critiques, Dieu a en réserve un instrument pour exécuter ses desseins et accomplir sa parole. Joseph est mentionné dans les quatre évangiles, et Jean nous informe que, jusqu'à ce moment-là, il avait été disciple en secret par crainte des Juifs. Maintenant, il agit avec hardiesse, alors que tous les autres sont intimidés. Et le sépulcre neuf, sans souillure, est disponible pour recevoir le corps saint du Seigneur. Il n'y eut ainsi pas le moindre contact par lequel il aurait pu voir la corruption. Les hommes en avaient décidé autrement, mais Dieu, sereinement, accomplit sa parole.